Je viens de vous dire qu'aujourd'hui, c'est la dernière prédication dans cette série en Genèse. C'est la 17e. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tout au long de cette série de prédications, nous avons vu deux groupes d'humanité. Après la promesse donnée à Satan, que qu'un jour Dieu allait envoyer quelqu'un pour écraser la tête, un descendant de la femme allait venir pour écraser Satan. Et là, Dieu a parlé de deux descendances, descendants de Satan, de l'homme, on peut dire, et descendants de la femme, descendants de Dieu. La ligne unique et la ligne élue, la ligne pieuse. Et c'est ce que nous avons vu depuis le début. Nous avons vu d'abord ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Il y avait Caïn, il y avait Lamech, il y avait Ham aussi. Et puis il y avait ceux qui ont aimé Dieu, qui ont servi le Seigneur. Il y avait Abel, Enoch, Noé aussi. Et dans la deuxième partie du chapitre 11, Dieu, Moïse, inspiré par Dieu, va commencer à diriger notre attention sur un seul individu, c'est-à-dire Abraham, un individu choisi par Dieu pour être une bénédiction pour les nations. C'est dans la famille d'Abraham que Dieu a choisi d'agir. Et on va, j'espère, revenir à ces passages à la suite dans les mois à venir, plus tard dans les mois à venir. Mais là, avant de diriger nos pensées sur Abraham, Dieu nous donne une dernière occasion de voir ce qui se passe dans un monde qui rejette Dieu. Il est comment ce monde qui essaie de vivre sans Dieu, l'humanité sans Dieu? Et la Bible décrit pour nous une ville construite sans aucune référence à Dieu. Et c'est la ville de Babel. Ici, cette ville s'appelle Babel. Plus loin dans la Bible, plus tard dans la Bible, elle sera connue comme Babylone. Et tout au long de la Bible, la ville de Babylone est synonyme de la rébellion de l'homme contre Dieu. Quand vous lisez Babylone, c'est-à-dire c'est la rébellion, c'est tout ce qui est contre Dieu, tout ce qui est opposé à Dieu. On peut parler de l'esprit de Babylone, qui existe toujours d'ailleurs. L'esprit de Babylone est un esprit rebelle, un esprit arrogant, un esprit orgueilleux. Écoutez ce que dit le roi de Babylone dans Daniel 4, verset 30. Écoutez bien son arrogance et son orgueil. N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Quelle arrogance de la part de ce roi. Et dans ce passage ce matin, nous allons voir d'abord l'esprit orgueilleux et la rébellion de Babel, et puis nous allons voir la réponse de Dieu. Et nous allons essayer de voir ça dans le contexte de l'époque, mais aussi dans notre contexte aujourd'hui, pour voir que rien n'a changé dans notre monde. D'abord, l'esprit rebelle et orgueilleux de l'homme. Le récit de cette histoire commence plutôt mal dans le verset 2. Nous lisons la phrase parti vers l'Orient ou parti de l'Orient. Et dans le livre de la Genèse, et cela indique, quand on parle de l'Orient, cela indique un éloignement de Dieu, de la présence de Dieu. Caïn habita à l'Orient d'Éden. Lot, le neveu d'Abraham, a choisi d'aller vers l'Orient. Et à chaque fois qu'on trouve des gens qui vont vers l'Orient, je ne sais pas si c'est par là ou si c'est pas là, mais on va vers l'Orient, ça veut dire qu'ils s'éloignent de Dieu. Donc, avec la première phrase de ce récit, la sonnette d'alarme commence déjà à retentir. Aïe, aïe, aïe. Là où ils vont, c'est pas bien. Et puis le texte continue. Ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Et vous dites, mais Andrew, vous avez dit qu'il y avait de l'orgueil, il y avait de la rébellion. C'est où? Où est l'orgueil là? Où est la rébellion? Est-ce que s'installer dans une vallée est un gros péché? Normalement, non. Mais on pourrait dire que manger du fruit n'est pas un gros péché non plus. Sauf si Dieu a dit de ne pas le faire. Et Dieu avait clairement dit à l'humanité de ne pas rester en un seul endroit, mais de partir pour remplir toute la terre. Dieu voulait que les habitants de la terre soient dispersés. Mais là, cet énorme groupe de gens dit, nous ne voulons pas nous disperser. Nous voulons rester là. Nous ne voulons pas aller aux extrémités de la terre pour la peupler. Nous voulons habiter ici. Et voici leur esprit rebelle. Et cette rébellion est soulignée au verset 4, si vous regardez. Ils disent, faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. Là, nous voyons un aperçu, nous avons un aperçu dans leur cœur rebelle. Les habitants de Babel ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est une désobéissance flagrante. Ils ont bien compris ce que Dieu avait demandé de faire. Ce n'est pas une question d'ignorance de la volonté de Dieu, c'est une question de désobéissance. Il y a une détermination de ne pas faire ce que Dieu leur avait commandé. Et un auteur a dit, et je pense qu'il a raison, que le problème pour nous, ce n'est pas que nous ignorons la volonté de Dieu, mais que nous comprenons très bien la volonté de Dieu, mais nous n'avons pas envie de la faire. Ce n'est pas un manque de connaissance de sa volonté. Nous comprenons très bien ce que Dieu veut, mais nous ne voulons pas le faire. Peut-être que je parle à quelqu'un qui vit comme ça. Vous savez très bien ce que Dieu demande de vous. Vous savez très bien, vous comprenez très bien. Dieu vous demande de le suivre, de lui donner votre vie, chaque partie de votre vie, chaque partie. Et vous comprenez très bien. Vous savez ce qu'il vous dit. Mais dans votre cœur, il y a de la rébellion. Il y a de la désobéissance. Vous dites non à Dieu, tout comme les habitants de Babel. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire ensuite, les habitants de Babel? Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et puis ils disent encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et dans un sens, on pourrait leur dire, bah, chapeau, bravo les gens de Babel, parce que ce que vous avez construit là, c'est magnifique. Vous vous servez des matériaux bruts pour construire des briques. Il n'y avait pas assez de pierres dans la région. Ils ont pensé, alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ça c'est une bonne idée, on va faire ça, oui. On va construire. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. On pourrait leur dire, chapeau. Mais examinons ce qui se cache derrière leur projet de construction. Baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Ils veulent annoncer haut et fort que leur puissance, leur sagesse, leur grandeur ne connaissent pas de limite. Ils cherchent à montrer qui sont aussi puissants, aussi grands que celui qui habite au ciel. Montons là où demeure Dieu, ils disent. Nous voulons être comme Dieu. Nous voulons nous mettre à la place de Dieu. Et en faisant cela, en disant cela, ils cèdent à exactement la même tentation qu'Adam et Ève. Vous serez comme Dieu. Ah, ça on veut bien. Même chose là pour le peuple à Babel. Ils veulent monter au ciel, mais non pas pour adorer Dieu, mais pour le détrôner. Pour le détrôner. Ils construisent une tour, vraisemblablement un temple, mais Dieu est absent. Dans le langage du texte, tout parle de leur autosuffisance. Regardez bien. C'est surtout frappant au verset 4. Nous, nous, nous. Dieu est absent. Regardez cette petite phrase au verset 4. « faisons-nous un nom. Voici l'orgueil de l'être humain. Ils veulent se faire un nom, ils veulent que le monde entier regarde. Ils veulent que le monde entier les loue, ce peuple redoutable. Et derrière ça, ils ont peur d'être anonymes. Ils ne peuvent pas supporter l'idée qu'on ne parle pas d'eux, de leurs exploits, de leurs forces. Ils disent, nous voulons que le monde entier dise, regardez les habitants de Babel, admirez-les, louez-les. Nous voulons que les générations à suivre parlent de nous. Nous voulons être grands. Encore un exemple de comment ils essaient de détrôner Dieu. Ils veulent prendre pour eux-mêmes ce qui est dû à Dieu seul. La gloire, l'honneur et la louange. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, ils veulent que ce soit le leur. Et mes amis, cette soif d'être reconnu, d'être loué, de recevoir la gloire, nous voyons cette soif tout autour de nous. De nos jours, on est prêt à faire tout et n'importe quoi pour être vu et reconnu. Dans les émissions de télé-réalité, qui sont en aperçu de notre société, plus le comportement est bizarre, mieux c'est. Plus les gens sont célèbres. On parle de la génération Facebook et Instagram. Et pour la plupart des gens, le but principal, c'est de se faire un nom. C'est de montrer, voilà ce dont je suis capable. Regardez mes exploits, regardez ce que j'ai fait. Que dire du culte de la célébrité, des gens qui vivent pour être vus, pour être reconnus? Ils n'ont pas fait grand-chose. Mais ils sont célèbres. Que penser d'un sportif portugais qui crée un musée en son propre honneur pendant qu'il est encore en vie, parce qu'ils veulent que pour des générations, on parle de lui? Là, il y a un problème. Que penser du président du pays le plus puissant du monde qui semble tout faire pour se faire un nom? Tout autour de nous, on a Babel, 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 Babel. Et ceux qui cherchent à faire un nom pour eux-mêmes, ils vont à l'encontre du but principal de la vie de l'homme. Leur but est de glorifier eux-mêmes au lieu de glorifier Dieu. Leur but est de rendre leur nom grand au lieu du nom de Dieu. Et nous savons que Satan, au ciel, n'était pas content de la place que Dieu lui avait accordé. Dans son orgueil, il a cherché à être égal à Dieu, supérieur même à Dieu. Et depuis ce péché, le monde entier est atteint de ce même désir. Je veux être Dieu dans ma vie. Nous cherchons la gloire pour nous-mêmes, au lieu de chercher la gloire pour Dieu. Écoutez les paroles qu'on a lues du prophète Ésaïe. Tu disais dans ton cœur, je montrerai. Il parle à Babylone, mais ce sont les paroles qui sont adressées aussi qui parlent aussi de Satan. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, comme la tour de Babel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseyerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Et quand on oublie qu'on existe pour la gloire de Dieu, on commence à vivre pour sa propre gloire et pour son propre renom. Et ce même danger existe pour nous dans l'Église aussi, dans le service de Dieu. Il est possible qu'on oublie qu'on existe pour rendre gloire à Dieu. Notre but n'est pas de nous glorifier. Notre but n'est pas de chercher la gloire de notre Église. Notre but, c'est de chercher la gloire de notre Seigneur, le chef de notre Église. Donc, pouvons-nous dire ce matin, Je suis content de servir mon Seigneur sans être reconnu par le monde, sans être remercié, même par mes frères ou mes sœurs en Christ. Comme le Seigneur a dit, est-ce que nous sommes prêts à prendre la dernière place, la place la moins importante, la place la plus humble? Est-ce que nous disons, je renonce à moi-même pour la gloire de mon Seigneur? C'est pas facile. Même si je suis méconnu, méprisé, persécuté, ridiculisé, si le nom de Jésus est glorifié, je serai content. Êtes-vous prêt à être anonyme au service du Seigneur? Tout ce que je veux, c'est de savoir que le nom de Jésus est exalté. C'est tout ce qu'il me faut. C'est la vie à laquelle nous sommes appelés. Une vie de service, et non pas une vie de gloire pour nous-mêmes. Une vie d'humilité, et non pas d'orgueil. Je pense, this is not a new text, je pense à mon ancien pasteur, qui était un prédicateur hors norme, vraiment un très très bon prédicateur. Et il nous disait, une fois, après la prédication, quelqu'un lui a dit, ça c'est une des meilleures prédications que j'ai jamais entendues. Il a dit, ah, vous êtes la deuxième personne, c'est la deuxième fois que j'ai entendu ça. Ah oui, mais je suis la première personne à vous parler depuis. Oui, mais j'avais je m'étais à peine assis. Et Satan l'avait dit déjà. Vous voyez, même en faisant du bien, il y a cette tentation à l'orgueil. Qu'est-ce que c'était bien? Bravo. C'est un vrai danger. Nous vivons pour la gloire de notre Seigneur. Donc voilà la rébellion et l'orgueil humain. Construire sans Dieu, construire pour se faire un nom, refuser de se soumettre à Dieu, refuser d'obéir à Dieu, dire regardez-moi, louez-moi, parlez de moi, de mon travail, de ma maison, de mon look, de mes notes, de ma beauté. Pas de place pour Dieu. C'est moi qui suis roi de ma vie. Et puis, voyons plus brièvement et en deuxième lieu la réponse de Dieu. Peut-être que je n'ai pas assez souligné jusqu'ici, mais nous ne devrions pas oublier que cette ville de Babel et surtout cette tour de Babel, c'était des constructions extraordinaires, vraiment impressionnantes. Et c'est vraiment un exploit, construire une tour de cette hauteur, on dirait presque la même hauteur que la tour de Bretagne. Et ça, c'est impressionnant, parce qu'on a tendance à penser, ah, c'est des gens primitifs, un peu pas très développés. Si, si. C'est pas le cas du tout. La ville de Babel et le peuple étaient bien doués. Et c'est surtout l'impression qu'on a quand on lit les versets 1 à 4. Mais tout change dans cette histoire, à partir du verset 5. Parce que c'est au verset 5 où on voit ce que pense Dieu de cette tour. Est-ce que Dieu est impressionné par la tour? Est-ce que Dieu est rempli d'admiration pour le peuple de Babel? Et c'est là déjà, on en voit, vous sentez la satire et l'ironie, parce qu'il y en a plein dans le passage aussi. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour. Et ces constructions si impressionnantes, si grandioses, si imposantes, cette tour qui devait monter au ciel, Dieu est obligé de sortir sa loupe et de descendre du ciel. Donc, elle est où cette petite tour qui... Ah, c'est ça? Il a du mal à la voir. Voilà ce que veut dire le texte ici. Dieu descendit du ciel pour voir ceux qui voulaient monter jusqu'au ciel, tellement leur construction était petite aux yeux de Dieu. Il descend pour la voir, elle est trop petite. Et quand il voit cette tour, comment Dieu réagit-il? Verset 6. Voilà un seul peuple, Ils parlent tous un même langage et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Est-ce que Dieu a peur? Est-ce que Dieu se sent menacé? Ah non, là, il devient trop fort, ces gens de Babel, ces habitants de Babel. Non, Dieu n'est pas menacé, Dieu n'est menacé par personne. Mais Dieu prévoit ce dont l'homme sera capable de penser et de faire s'il continue dans son arrogance et dans son orgueil. Dieu prévoit, à juste titre, des conséquences désastreuses pour l'homme s'il continue à vivre sa vie sans Dieu. Si l'homme commence à vraiment se croire invincible et intouchable, son arrogance et sa désobéissance risqueront de l'amener encore plus loin de Dieu, avec des conséquences catastrophiques. C'est ça que Dieu est en train de dire. Dieu sait que cette ville et cette tour ne seront que le début de la rébellion de l'homme. Donc il faut que Dieu agisse pour freiner l'iniquité et l'arrogance de l'homme. Il faut que Dieu empêche l'homme de se précipiter dans l'abîme de sa folie. Donc, au verset 7 et 8, nous voyons le jugement de Dieu. Pour montrer que c'est lui le plus fort, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui domine sur les nations les plus puissantes, Dieu se sert des mêmes phrases, si vous voyez ça, qu'on a vu dans les versets 1 à 4, deux fois les habitants de Babel ont dit « Allons, faisons ceci, faisons cela ». Dieu dit la même chose, c'est à Dieu de le dire « Allons, confondons leur langue ». Eux, ils avaient dit, et Dieu choisit de confondre le langage des habitants de Babel afin qu'ils ne puissent plus travailler ensemble. Il est hyper compliqué de travailler avec quelqu'un qu'on ne comprend pas. Es ist ganz schwierig, jemand zu verstehen, wenn dieses Mann ein anderes Fremdsprach spricht. Nicht? Et là, vous me regardez, ça vous a réveillé, en tout cas. Jemand hat verstanden? Ja. Alors, quelqu'un a compris. J'ai sans doute fait plein de fautes aussi, mais... Mais vous voyez, d'un coup, les deux personnes qui travaillent ensemble, et là, ils commencent à parler une langue autre. Et nous, dans cette église, nous comprenons les difficultés de langue qu'on a de temps en temps. Mais eux, ils avaient dit, les habitants de Babel, nous ne voulons pas nous disperser sur toute la terre. Mais Dieu confond le langage pour qu'ils soient obligés de se disperser. Et par un acte surnaturel, nous ne comprenons pas comment Dieu l'a fait. Dieu confond le langage des êtres humains pour qu'ils ne puissent plus coopérer ensemble, ni habiter ensemble. Et ils sont obligés de se séparer et de se disséminer, de faire ce que Dieu leur avait dit de faire. Verset 8, l'Éternel les dissémina loin de là, sur toute la surface de la terre. La chose qu'ils craignaient le plus leur est arrivée. Et la construction de la ville, la construction de la tour s'arrête, et ce beau projet est abandonné. Ce qui devait être un monument à la puissance, à la grandeur, à la force de l'homme, est devenu un monument à sa folie et à son impuissance. Un monument au jugement de Dieu contre l'arrogance et l'orgueil de l'homme. Et à partir de ce moment dans la Bible, Babel ou Babylone représente un monde qui s'oppose à Dieu. Babylone représente un monde ou un esprit sans Dieu. Et cette histoire de la ville de Babylone, de Babel, se répétera encore et encore jusqu'au retour du Christ. Il y aura des empires, il y aura des grands, des philosophies, des mouvements qui s'élèveront contre Dieu, qui s'opposeront à Dieu, qui auront l'air très impressionnants et solides, Mais à un moment ou à un autre, Dieu viendra pour balayer, pour les faire tomber. Qui étaient les premiers à lire ce texte? Ben, c'était les Israélites qui venaient de sortir d'Égypte. Égypte, cette grande nation puissante, impressionnante, balayée par Dieu. Balayée par Dieu. La Bible nous parle de l'empire de Babylone, des Assyriens, des Romains et d'autres. Tous se sont élevés contre Dieu, contre son peuple. Mais ils sont où maintenant? Balayés. Dans mes cours d'histoire à l'école, j'ai étudié l'histoire de l'empire portugaise, espagnole, française, turque, britannique, hollandaise. Elles sont où maintenant? Balayées. Hitler, Staline, Mao Zedong. Hitler se vantait d'avoir créé son Reich qui allait perdurer 1000 ans. Et même pas 10 ans plus tard, balayé. Dispersé. Que dirait-on dans 100 ans, dans 150 ans, que dirait-on des États-Unis, de Donald Trump, de l'Union européenne? Ces tours de Babel construites par l'homme, où Dieu est exclu, balayé. Le sommet pour la paix de dimanche dernier, c'est bien que les gens se réunissent pour parler de la paix. Ont-ils invoqué le nom de Dieu? Est-ce qu'ils ont commencé par un mot de prière pour chercher la face de Dieu, pour chercher la bénédiction, l'aide de Dieu? Est-ce qu'ils ont remercié le Seigneur pour les années de paix qu'on a connues depuis la dernière guerre? Non. Ils ont construit leur réunion, leur tour sans Dieu. Et les mouvements intellectuels, l'humanisme, l'existentialisme, le communisme, le matérialisme, ils ont tous l'air si impressionnants. Mais ils ne perdureront pas. Dieu n'a pas peur, Dieu n'est pas impressionné par les nouvelles athées comme Michel Onfray ou Richard Dawkins en Angleterre. Ces hommes-là, ils auront leur petit moment de gloire. Mais Dieu va les disperser. Dieu va les balayer. Dieu n'est pas intimidé par Charles Darwin. Et déjà, les théories de Darwin sont en train de s'effondrer. Et le chrétien ne devrait pas être intimidé par les tours de Babel qu'il voit autour de lui. Et ce n'est pas facile dans un pays comme le nôtre, parce que les tours sont bien hautes et bien impressionnantes et ont l'air bien solides. Mais Dieu est sur son trône. Et Dieu est obligé de descendre. Ah, c'est là. C'est là la grande tour. Et on a vu dans le psaume 2, celui qui siège au ciel, il rit. Des fois, il y a quelqu'un dans notre maison qui se fait mal. Il a un énorme bobo. Il faut que maman et papa voient son énorme bobo. On sort la loupe. Ah, c'est là. Ah, c'est ça. C'est tour de Babel. Dieu se moque de ces tours de Babel. Dieu est sur son trône. Dieu est obligé de descendre pour voir ces petits pions. Il faut saisir cette vision de Dieu dans toute sa gloire. Le prophète Ésaïe l'avait bien saisi. Ésaïe 40, verset 22. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui habitent sont comme des sauterelles. Plein de petites sauterelles sur la terre. Et Dieu les regarde. Ésaïe continue. C'est lui qui réduit les princes à rien. Et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont même pas plantés, même pas semés. Leur tronc n'a même pas de racines en terre. Ils soufflent sur eux. Ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte, comme le chaud. Ils ne sont plus là. Mais Dieu est là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de Babel et cette fameuse tour? Rien. Et dans Matthieu 7, Jésus a parlé d'une autre construction de folie. Une maison bâtie sur le sable. Une maison qui représentait une vie bâtie, construite sans Dieu, sans sa parole. Et la maison a l'air très bien, très solide. Les gens qui passent, ah, ce serait bien de vivre dans une telle maison. Non. Jésus dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà ce qui se passe quand on bâtit sa vie sans Dieu. La ruine est grande. Est-ce que je parle à quelqu'un qui bâtit une vie comme ça? Vous baptisez sans Dieu. Dans votre orgueil, vous disiez que vous n'avez pas besoin de Dieu. Vous ne le direz pas comme ça, vous ne vous mettrez pas debout, vous direz, moi je construis sans Dieu. Mais en réalité, c'est ce que vous faites. Vous avez fermé la porte de votre vie à Dieu. Est-ce que vous voyez ce que Dieu pense de votre tour, de votre maison que vous êtes en train de construire? Est-ce que vous voyez ce qui se passe quand on construit sans Dieu? Dieu a disséminé les habitants de la terre. Ils étaient confondus par toutes les langues différentes. Mais comme j'ai vite dit tout à l'heure, ce n'est pas la seule occasion où les gens étaient confondus en entendant des langues différentes. Dieu, déjà, il anticipait un jour où les habitants de toute la terre qui étaient en train de disperser, ils seraient réunis et ils seraient confondus en entendant les langues différentes. Il anticipait un jour où les gens de toutes les langues entendraient la bonne nouvelle de Jésus-Christ en leur propre langue. Il anticipait un jour où les gens de toutes les nations viendraient s'agenouiller devant le Seigneur. On a lu l'histoire du jour de la Pentecôte, qui était un renversement de ce jugement de Dieu contre l'orgueil et de l'humanité. L'Esprit de Dieu est descendu et écoutez ce qui s'est produit. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Je trouve ça magnifique. Ce que Dieu a fait à Babel a empêché les gens de travailler et de vivre ensemble. Mais ça n'a pas empêché Dieu de faire annoncer la bonne nouvelle de son salut. Encore une fois, nous voyons jugement et grâce. Dieu, dans son jugement, a agi de sorte que les différentes langues soient parlées et que les gens soient dispersés de cette ville construite par l'homme, dans son jugement. Dans sa grâce, Dieu a agi de sorte, non pas que les gens soient dispersés, mais de sorte que les gens soient réunis et qu'ils entendent dans leur propre langue et qu'ils soient réunis, non pas dans une ville construite par l'homme, mais dans une ville céleste. Vous voyez la beauté de ce que Dieu est en train de faire. Quelle grâce de la part de Dieu. Oui, il juge le peuple de Babel, mais il sait qu'un jour, il appellera toutes les langues à venir à lui. Et aujourd'hui, réfléchissez bien à ça, aujourd'hui, dans des centaines de langues, partout dans le monde, des chants de louanges sont montés au trône de Dieu. Dans des centaines de langues, Dieu n'est pas confondu par les langues différentes. Et Dieu a agi en grâce. Oui, il a jugé, mais il a agi en grâce. Nous réfléchissons à cette grâce de Dieu, si grande, si large, et nous contemplons la ville céleste. Je ne sais pas quelle langue on parlera là-bas, mais nous contemplons cette ville céleste, une ville qui rend gloire à celui qui l'a construite, notre Père céleste. et nous le glorifions. Le psaume 115 dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Amen.